Même si la fête politique est présente déjà auparavant, et donc je vous ai donné en premier élément un texte d'Innocent IV, nous savons qu'il devient pape, en tant que canoniste, dans son commentaire des Décrétales, on est au milieu du première moitié du XVIe siècle, et c'est un texte plus intéressant pour voir qu'il y a une dimension politique de la question de l'usure qui est présente, même si elle n'est pas au centre, à mon avis, du débat. Alors, là encore, une nouvelle parenthèse, l'usure a été abordée de beaucoup de façons dans différentes problématiques par différents auteurs, hein. Un peu long d'en faire le tour. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer qu'il y a un débat proprement théologique et qu'il faut comprendre le débat théologique, la discussion théologique, pour saisir les positions des uns et des autres, théologiens et canonistes sur cette question. Et bien entendu, l'usure a été interprétée par des historiens généraux comme un phénomène qui a d'autres dimensions en mettant en avant des aspects proprement économiques ou politiques. Donc ce n'est pas une nouveauté de dire qu'il y a un argument politique. C'est juste pour rappeler par rapport à ce dont j'ai parlé dans l'article, j'avais constamment laissé de côté cette dimension que Jacques Le Goff met en avant de différentes façons, aussi quand il en parle. Mais là, on a un texte, bon, on n'a pas tombé des livres, je regarderai si votre latin vous le permet, si ça vous intéresse, mais là, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de faire de traduction et ça sera la peine, mais si ça vous... Enfin, on peut les survoler très rapidement. Disons que l'argument ici intéressant, c'est qu'au lieu de commencer par dire l'usure est un crime, est un péché contre telle vertu, un des débats, c'est est-ce que c'est un péché contre la charité en général ou contre une espèce particulière de vertu qui serait la justice, ou même la justice dans les échanges, hein, c'est la position qui se dégage progressivement à mesure que les théologiens lisent Aristote et intègrent l'éthique d'Aristote et la font rentrer en fond, j'avais vraiment le cadre de l'éthique chrétienne, c'est le fameux le plus saisissant de la scolastique du XIIIe siècle sur ces questions, c'est comment les théologiens se sont appropriés l'éthique d'Aristote pour en faire un modèle de morale chrétienne. Avec parfois des contradictions qu'il a fallu régler. Et là, on est au tout début de ce processus, et au lieu, mais c'est pas encore dans la tête directement de notre canoniste, il essaie de dire, lui, pourquoi c'est un mal terrible l'usure, et il commence par dire, c'est pas mal à cause de ses conséquences sociales. C'est tout à fait, enfin, on a connaissance, et je vais peut-être rappeler des choses, un texte assez unique en son genre au XIIIe siècle, enfin, chez les canonistes, on trouve des prédicateurs qui font des sermons parlant de ces questions-là, mais ces formes-là, c'est vraiment comme démonstration canonique, c'est assez rare. Hein. Il dit, l'usure est un mal parce que s'il était licite d'en recevoir, même de recevoir cet intérêt, au sens ancien de cette usure, tous les maux en suivraient. Et principalement parce que, je traduis directement, les hommes ne s'occuperaient plus de la culture de leur possession, à moins qu'ils ne puissent faire autrement, donc c'est-à-dire qu'il y aurait une tentation de gagner sa vie par le prêt, et imagine un monde où tout le monde deviendrait usurier, et de la sorte qu'il y aurait une telle caritia, une telle cherté, que tous les pauvres mourraient presque de faim. Et si bien que même s'ils avaient des terres à cultiver, ils ne pourraient pas obtenir les animaux, les instruments nécessaires à la cultivation, puisque les pauvres n'auraient pas ces instruments par eux-mêmes, et que les riches, aussi bien pour par esprit de gain, que pour la sécurité de leur argent, ils préféreraient les placer en usure que dans des choses qui procurent un gain plus faible et moins sûr. Donc on a un calcul d'opportunité de la part des usuriers. Et donc ça, le tout provoquerait une cherté de tous les biens et une crise terrible. Donc on imagine la société mourant de faim par l'appât du gain. Alors c'est évidemment un scénario un peu plausible, mais ça montre bien une pensée que qu'on peut exprimer autrement chez d'autres auteurs qui voit une opposition entre l'usure et le travail qui est la valeur nécessaire. Et l'usure est un risque de détourner du travail si elle était autorisée. Donc c'est ce qui est des grands thèmes de l'époque étant de mettre le monde au travail, de la valorisation du travail. Voilà, donc après il dit que peut-être il y a d'autres raisons et que peut-être... je passe sur la suite, mais c'est juste pour montrer qu'il y a cet élément politique qui est présent dès le XIIIe siècle, mais s'il n'est pas au premier plan. Alors, quand je parle d'un basculement, je parle de quelque chose que tu connais mieux que moi, c'est l'ensemble de la législation sur le crédit prise au début, entre le règne de Philippe III, Philo Hardy, à partir de 1880 et encore fortement par Philippe le Bel, donc de la création d'un système de presse sous sceau royal, et si je veux dire le sceau royal, je veux dire un basculement de juridiction. Puisque les contrats, quand un contrat est fait et garanti par un serment, le serment, donc s'il y a une rupture du serment, le procès a lieu devant une cour ecclésiastique. S'il est fait sous sceau royal, ça veut dire un procès devant une juridiction royale. C'est ce que Julie a étudié dans un des chapitres de son livre. Et on est en plein dans ces séances, dans ce tout tournant là, qui intervient un phénomène qui pour moi est frappant et n'a pas été mis en relief à sa juste valeur, qui est proprement la dépénalisation de l'usure par le roi de France en 1600. Je crois bien de dépénalisation, c'est le mot exact qu'on va voir. Alors, donc, un tout petit élément quand même de contexte sur Philippe le Bel, c'est j'en viens en plus à une chronologie générale qui me fait dire qu'il y a une unité du 14e au 16e siècle, de la fin 13e au début 16e siècle, il y a une période historique qu'il faudrait prendre comme un tout, et on en voit beaucoup d'aspects politiques, culturels, religieux, et là on a et le règne de Philippe le Bel pour la France, c'est vraiment un règne fondateur de beaucoup d'institutions et qui perdurent dans l'époque par exemple. Il n'y a pas du tout de dichotomie d'ici médiévale époque moderne. C'est une période qui est à la fois de crise financière perpétuelle avec des tentatives d'imposer des voies de sortie, de britannique financière, avec la création d'institutions durables. Donc il y a deux phénomènes complexes à penser en parallèle. Mais il y a visiblement une vraie volonté politique de prendre en main le contrôle des phénomènes monétaires et financiers, et une compréhension que les choses vont ensemble, et que, je reviens sur toutes les évaluations monétaires du règne de Philippe le Bel qui sont à la fois très connues mais très complexes, et qu'on n'a pas bien saisi encore toutes les conséquences et le réseau phénomène qu'il faudrait mettre en série avec. Je rappelle aussi qu'on est quelques années après l'expulsion des Juifs de France, c'est évidemment un problème évident de ça. Cette année 1311, après cette ordonnance en juillet, il y a en août une ordonnance concernant justement les Juifs et la question de l'exécution des dettes avec des créances juives, parce que le roi en expulsion les Juifs de France confisque aussi bien à la fois leurs biens et leurs créances. Donc le roi de France se retrouve en position d'avoir à récupérer les créances usuraires des Juifs. L'affaire était très compliquée, sur ce point. Et donc, quelques mois plus tard, le roi expulse les financiers italiens du royaume, les prêteurs italiens, en octobre. C'est dans ce contexte-là, il y a une année clé pour la politique financière de la France, personne ne le savait, mais pour la politique monétaire également, puisque c'est le moment où je crois que l'entourage royal a fini par comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la monnaie de manière efficace. Toutes les relations antérieures ont été suivies par le roi et non pas contrôlées par lui. Et là, il y a la première mesure de politique monétaire, c'est un affaiblissement mesuré avec la création d'une nouvelle pièce de monnaie appelée les bourgeois. Sans rapport avec la bourgeoisie, mais avec la ville de Bourges, qui est une sorte de stabilisation monétaire assez réfléchie, avec l'imposition de passer les contrats à sol et livre de la monnaie courante, des choses qui resteront de la politique royale pour le très long terme, qui se fixe au précédent. Donc c'est pas tout à fait un hasard. Et donc cette ordonnance, je ne vais pas la lire en détail, mais si vous voulez, c'est comme ça en moyen français, il n'y a aucune difficulté de lecture. Là aussi, on est au début de la mise en place de la vraie administration royale, la législation, puisque là, on a un cas où il y a une ordonnance en latin, version en latin faite pour les régions du Sud, qui ne parle pas de la langue d'oil, et la version française qui ne comporte pas exactement. Donc c'est des cas assez intéressants. Après, on n'a plus jamais ce genre de problème, mais là, on est encore un peu au début de la mise en place du système. Le point important, c'est effectivement, le besoin de la reconnaissance d'un besoin de crédit et les grillées usures, donc les mauvaises, très mauvaises usures, qui courent en ce temps par toutes les parties de notre royaume, dévorent et dégâtent les biens et la substance de nos sujets communément, si bien que sans nombre, innombrables, d'innombrables personnes, nombre de gens, en sont venus en grande pauvreté et j'en vois plusieurs sur même Nippin. Je la s'aggraverai encore si on nous mettait en elle. C'est pourquoi, par grand conseil, grande délibération, nous défendons. Notez bien la distinction qui est faite. À toute personne singulière, soit de votre royaume ou dehors, que nul ne fasse, use ni la coutume de faire nulle manière d'usure défendue de Dieu par les saints-pères et par nos antécesseurs. Nos antécesseurs, c'est une référence directe à Saint-Louis. Il y a la législation de Saint-Louis qui, lui, voulait faire pour concorder la politique royale avec la définition de l'Église. Et j'assois ce que nous défendons toute manière d'usure, bien que nous défendons toute manière d'usure, celles usures qui sont trop grillées et non portables, donc insupportables, on a évoqué un néologisme au sein de ce projet, c'est intéressant, et lesquelles plus grièvement dégâtent les biens et la substance de nos sujets, comme le de frappe, défendons plus fortement et poursuivons, et par cette très haute ordination, punissons ainsi comme il en suit. Donc, la déclaration, c'est tout est condamnable, mais nous ne punissons que les plus grièves, donc les plus lourdes. Et cela concerne un taux qui est de 1 demi la livre pour semaine, c'est 21,67 si je ne me trompe pas, ou 4 deniers pour le mois, 4 fois pour l'année, ce qui est un taux de 20% annuel. Donc, ce qui veut dire le roi déclare qu'il ne poursuivra l'usure qu'au-delà de 20%. Le reste, mais alors, on est. Pardon?
Par an,
on va comprendre. Non, mais mon nom, Antoine, pardon, j'ai beaucoup d'accord en Antoine. Alors, quand même, faut. Voilà. Et pour les forts de Champagne, le taux est de 15%, si je ne sais pas. Il y a un régime spécial pour les forts de Champagne qui font des crédits de 2 mois en 2 mois. Et le troisième article, comme je l'ai dit, pour régler son problème, parle de. Des faux contrats qui sont faits en, ça fait en fraude d'usure, et là c'est une catégorie très importante pour parler économique, c'est tous les contrats qui contiennent des clauses qui correspondent à une usure cachée. Et donc là il y a une dénonciation de ces faits. Et le point important, donc, vous voyez la fin de l'article 3, c'est en réalité ce qui deviendra le, enfin ce qui est déjà, et ce qui est encore forcément à partir de là, le seul vrai critère pour poursuivre les usuriers, il s'agit. De cas où il y a une claire présomption être fait en fraude d'usure en personne diffamée ou accoutumée de faire usure ou contre usurier, contrairement à usurier. C'est-à-dire que être usurier, celui qui a la réputation d'être usurier. Et lorsque quelqu'un qui a la réputation d'être usurier fait un contrat qui a l'air correct, il faut considérer a priori qu'il est louche et qu'il incorpore de lui une usure. Et effectivement, dépénalisation de la petite usure va de pair avec la concentration sur les usuriers notoires, c'est eux qu'on doit pressurer. Je vais passer, j'ai une texte complète parce qu'il faut mettre les textes en train. On peut prendre le texte une fois pour les faire en intégralité, je pense. Et vous notez la ligne 9, le paragraphe 9, c'est une commande que les prélats et les barons justifiés qui ont aujourd'hui fassent publier en leur justice toutes ces choses. C'est vraiment une ordonnance que le roi prend pour lui, mais qu'il veut faire appliquer dans ses domaines, et précisément à une époque où il tente d'imposer sa législation sur d'autres sujets, dans les domaines des. En enquêtant sur la justice, la haute justice des seigneurs et des barons et prélats, notamment en matière monétaire. Exactement l'année précédente, c'est l'année, le printemps 35, avec le moment où les officiers royaux prennent en charge l'application des ordonnances monétaires dans les terres des barons, et le moment où c'est le roi fait appliquer sa loi et considère que les monnaies des féodales n'ont qu'une façon anecdotique et que tout ce qui compte, c'est la défense du coût des monnaies royales dans tout le territoire du royaume, quel que soit le seigneur souverain, quel que soit le seigneur ayant haute justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement cette déclaration générale, c'est le texte suivant, donc il est en décembre 1312, et qui est un texte, donc à nouveau une ordonnance, là j'ai pas mis l'intérêt, mais on a encore une fois une ordonnance à la valeur générale qui est publiée en tout le royaume, qui est une précision, une interprétation du texte qui a suivi. Et qui fait référence donc aux ordonnances qui ont été faites nouvellement. Et donc, si vous avez le deuxième paragraphe que vous trouverez en haut de la page 3, c'est une des fois que j'ai mis en grâce celle d'accord. Mais aucun malentendant et mauvaisement interprétant la sentence et les paroles de cette ordonnance, chaque fois qu'elle soit claire et entendable, pour ce que, en cette ordonnance, l'abomine peine nommément contre ceux qui useront et fréquenteront l'usure de menues quantités, s'efforce d'arguer que nous entendons que cette menue usure se puisse bonnement user ou fréquenter en notre royaume, laquelle interprétation de cette frappe et argument de tels gens sont ni mauvais. Comme nous voyons par parole expresse défendue de toute manière de genre, etc. etc. Donc, il répète que hein, c'est dépénalisé, mais ça reste mauvais. Et on, c'est bien cette situation-là qui est tout à fait intéressante et unique. Et je pense que peut-être qu'on me corrigera sur ce point, mais je pense pas que ça a été mis suffisamment en avant. Il s'agit bien de dépénaliser sans. C'est arrivé, ça y est. Ça reste un péché. Comme on peut comme dire, et en fait la phrase comme elles sont de Dieu et des saints défendus. Mais la prochaine, c'est sous peine de corps, hein, c'est la punition, c'est bien la prison, c'est dans, tout à fait dans le même registre que ce que l'institut dit. Voilà, donc une précision sur cette décision. Et alors j'ai pas repris tous les textes, mais point intéressant, c'est ça, le second était remis en question au début du règne de Philippe VI, en 1329. Philippe de Valois, donc une question politique un peu compliquée, mais qui est un roi qui n'a pas de légitimité, avec une légitimité chancelante, oui. C'est le mot, parce qu'il est en ligne directe de ses prédécesseurs, et quand il arrive au pouvoir, il a